J'enrage, lilloise et féministe.
J'enrage, c'est moi et peut-être vous.
J'enrage est votre radio féministe lilloise sur les ondes et dans vos cœurs un dimanche par mois de 14 à 15 heures.
Sur RCV 99 FM.
J'enrage.
J'enrage, s'engage.
J'enrage, le courage en intraveineuse.
J'enrage, galaxie féministe, vous invite dans son no man's land.
J'enrage, la claque du dimanche après-midi.
Soyez là.
J'enrage occupe à nouveau le plateau d'RCV avec une nouvelle équipe. Nous sommes donc de plus en plus nombreuses. Vous rencontrerez au fil des émissions Anaëlle, Julia, Mathilde, Anaïs, Marthe, Suzanne et aurez la chance d'écouter en inédit des reportages concoctés par Zab et Zouz. Vous pouvez réécouter en rediff les podcasts des émissions sur le site du collectif J'enrage, qui est malheureusement pour le moment en construction, mais qui est très bientôt disponible, on vous le promet. Aujourd'hui, le programme est serré. Accrochez-vous bien, pendant la première moitié de l'émission, un débrief autour du coming out. Donc on va commencer par, ça va être un petit peu le bordel, mais vous apprécierez. Avec en exclusivité quelques témoignages. On est très heureuses quelques témoignages qu'on aura le plaisir d'écouter, qui auront été enregistrés par Julia ici présente. Après les témoignages, restez avec nous pour une découverte BD. Julia vous parlera de Gauthier et de sa BD L'enterrement de mes ex. Et puis enfin, c'est Suzanne, moi-même, qui clôturera l'émission avec une note sur l'Opoponax de Wittig, vous savez, l'auteur de La pensée straight. Donc, on va commencer tout de suite sur notre thème du jour, le coming out.
Je voudrais juste... Salut d'abord. Je voudrais juste préciser qu'à J'enrage, on a déjà fait une émission sur le coming out. Donc, c'était l'émission numéro 26, si je ne m'abuse, qu'on pourra retrouver sur le site prochainement disponible. Et l'émission avait été enregistrée le 23 mars 2014. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, coming out, qu'est-ce qu'on entend par là ou qu'est-ce que ça dit dans l'imaginaire collectif, à quoi on fait référence coming out. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir, mais vas-y Julia.
Ben, c'est vrai que le coming out, il y a plusieurs mots aussi. Il y a le mot sortir du placard qui est utilisé en français. Coming out, c'est donc une expression anglaise qui sous-entend donc, en fait, finalement, sortir du placard, c'est un petit peu la même chose. Coming out, c'est l'idée de sortir dehors. Et donc, c'est vraiment utilisé principalement par rapport à l'orientation sexuelle. Du coup, Ouais, vas-y.
Moi, je trouve que dans l'imaginaire collectif, quand tu parles de coming out, quand on parle de coming out, ça visibilise seulement les gays ou les lesbiennes, alors que ça peut toucher beaucoup plus de personnes que ça, LGBTQIF, lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexe.
Et le F, c'est féministe.
Féministe, ouais, je l'ai oublié le F, pardon.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important de faire son coming out en tant que féministe aujourd'hui.
Oui, mais du coup, ça peut recouvrir plein de choses, plein d'identités aussi. On ne parle pas forcément que d'orientation sexuelle quand on fait son coming out en général, alors que dans l'imaginaire collectif, c'est souvent réduit à ça. Quand on s'out, on parle quand même de sa vie privée et pas que de ses orientations sexuelles ou ses relations sexuelles. Donc, moi, je trouve ça important de replacer ça, pas que sur une certaine catégorie de personnes. Qui fait que certaines autres sont invisibilisées aussi, quoi.
Oui, donc précisément, quand on parle de coming out, une chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est que c'est vrai que c'est un petit peu ma rengaine, je me répète souvent quand je pense à ce terme-là, mais on imagine souvent qu'il y a un jour un coming out et que tout est terminé et qu'il n'y a plus de problème une fois qu'on a fait son coming out en tant que gay, en tant que lesbienne, en tant que trans, etc. Et ben, c'est terminé. Voilà, tout le monde le sait, c'est bon, etc. Alors que, précisément, en tout cas, ce qui me frappe, c'est quelque chose qui me frappe particulièrement, c'est que le coming out, j'ai l'impression qu'on, c'est une sorte de, c'est un truc un peu performatif où on a, on doit le faire toujours, où on, en fait, dans n'importe quelle situation, le placard menace de se refermer ou a la possibilité de se rouvrir. Enfin, je sais pas si si ça vous évoque quelque chose ou si vous avez des expériences différentes par rapport à ça ou si ça vous évoque d'autres choses ou...
Ouais, complètement. Moi, je partage totalement ton point de vue. Au final, c'est vraiment l'affaire de toute une vie. En tout cas, dans mon cadre familial, je sais qu'il n'y a absolument rien de définitif et que finalement, je vais quand même devoir le répéter au fur et à mesure de mon avancement dans ma sexualité, puisque je me considère comme pan. Donc voilà, comme tu dis, en fait, il y a même moi, dans mon souvenir de coming out, disons que je ne me remémore pas un moment en fait, précis, puisque de toute façon, ça revient quand même à chaque fois sur le tapis. Donc, ça se construit vraiment dans le temps, quoi. C'est pas quelque chose d'événementiel, vraiment précisément, en tout cas dans mon cas.
Et puis, pour revenir sur l'aspect performatif et identitaire aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, et puis on en discutait quand on a préparé cette émission, le coming out, quand on en discute, on se rend compte aussi que ça renvoie pas mal à des questions identitaires, et pas que sexuelles, et que le caractère performatif et de la grande plasticité du coming out, moi je la lie aussi à la question de l'identité, à l'évolution de l'identité. Quand tu changes, personnellement, tout au long de ta vie, parce que tu t'es pas trouvé toi à un moment précis et plus jamais ça bouge, ton coming out, il peut éventuellement évoluer aussi au fur et à mesure de ton évolution identitaire et se préciser ou changer, être modifié selon les moments où tu t'identifies. Et puis le coming out, il peut changer de caractère aussi. Parfois, tu peux avoir besoin de l'affirmer un peu violemment, enfin de le balancer un peu à la tronche des gens parce que c'est comme ça que tu le ressens sur le moment. Et puis c'est une sortie du placard un peu violente parce que t'en as marre de mentir ou ce genre de choses. Et puis même si le coming out en question, il change pas forcément, tu peux le faire plusieurs années plus tard parce que t'es plus à l'aise avec ça ou parce que t'es plus à l'aise avec toi. Le faire de manière plus calme, plus posée, pas forcément en discuter, mais de manière moins violente, peut-être moins agressive pour les personnes qui le reçoivent aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui évolue, mais comme nous-mêmes, on évolue aussi, je pense.
Ce qui m'évoque aussi, c'est que le coming out, c'est une question que... Est-ce que on définit le coming out comme un processus social? Bon, je sors des gros mots, mais en fait, ça me fait penser à un article parce qu'en préparant l'émission, je suis tombée sur un article de Paul Preciado qui parlait du coming out de Jenny Jeffer. Je sais plus comment elle... Je me souviens plus de son prénom exactement. Bon, je cite de mémoire en tant que donc meuf trans. Et en fait, il explique que. En fait, il la genre au masculin parce qu'à ce moment-là, elle dit qu'on peut encore la genrer au masculin. Et précisément, il montre les conditions dans lesquelles elle est contrainte de en fait, dire « Oui, je suis trans, mais en même temps, vous inquiétez pas, je vais pas déranger les normes, etc. » Et en fait, il dit le coming out, il est toujours aussi pris dans une espèce de... dans un filet normatif qui fait que pour être compréhensible, pour que ce soit compréhensible socialement, t'es obligé un petit peu de passer par la case normalisation en fait. Et voilà.
Ouais, ça me rappelle pas mal de choses ce que tu dis, Suze, parce qu'effectivement le rapport, par exemple, déjà c'est intéressant parce que j'avais lu un article là-dessus sur le gentil trans. Je suis un gentil trans, c'est-à-dire je vais pas vraiment déranger, vous inquiétez pas. Je suis une personne trans, mais vous inquiétez pas, je suis gentille. C'est-à-dire, je vais pas râler à chaque fois que vous me genrez mal ou que vous posez des questions sur ce que j'ai entre les jambes. Ben voilà, c'est des trucs un petit peu récurrents sur le rapport, justement. Et après, moi, je trouvais ça intéressant parce que par rapport, justement, aux personnes trans, moi, je suis allée voir la discussion avec Sophie Labelle, qui est donc une autrice militante trans, elle est autrice de bande dessinée, qui s'appelle Assigné Garçon. Et elle disait quelque chose que je trouve assez juste et qu'on réalise peut-être pas, c'est qu'en fait, en tant que personne trans, c'est pas le même rapport, parce qu'en fait, t'es pas... En fait, tu fais pas ton coming out. C'est-à-dire, en fait, c'est ça qui, en fait, ça peut se, on peut le voir à tous les niveaux. C'est-à-dire que elle disait, mais oui, mais en fait, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été une fille. En fait, juste à un moment donné, j'ai choisi de le dire et de le visibiliser parce que j'en avais ras-le-bol. Et en fait, c'est un peu ce que je ressens aussi des fois dans mon rapport au coming out. C'est, je me dis, mais j'ai toujours été ce que je suis. En fait, j'ai toujours été pansexuelle. Toujours eu des attirances multiples. Oui, il s'avère qu'à un moment donné, j'ai choisi de visibiliser plus le fait que j'étais attirée par des filles. Et ça a effectivement eu un impact sur, par exemple, dans ma famille à ce moment-là. Mais ça ne change pas le fait que notre évolution, elle était là avant qu'on le dise, quoi. Enfin, pour ma part.
Puis je trouve que ça, enfin, dans l'imaginaire collectif aussi, ça peut réduire... Les personnes qui se visibilisent à leur orientation sexuelle aussi. Enfin, t'as toujours la peur, c'est assez personnel, mais moi je sais que ma mère, par exemple, m'a dit « Bah oui, c'est pas grave, mais ça te définit pas. Enfin, c'est que une pratique sexuelle et c'est que l'expression d'une pratique sexuelle et pas une pratique identitaire. » Et en fait, si. Finalement, si, parce que je pense que ça impacte mon engagement féministe aussi d'un certain côté, parce que c'est l'expression de ma vie privée et pas que de ma vie sexuelle, donc de ma vie sentimentale,
affective.
Mmh. Et du coup, c'était cette peur de « te réduis pas à ça ». Bah ouais, mais c'est pas réducteur pour moi, ça fait partie de ce que je suis, c'est pas entièrement ce que je suis, mais ça fait aussi partie de ce que je suis, et du coup, j'ai besoin de le lier avec d'autres choses. Et c'est... C'est une pratique un peu réducteur aussi de dire c'est qu'une pratique sexuelle, non.
Ouais, ça m'évoque énormément de choses et malheureusement comme on a un temps un petit peu compté, on doit dire plein de choses aujourd'hui. On va vous retrouver tout à l'heure après une chanson de Angel Hayes qui a repris, donc c'est une cover de la chanson Same Love de Macklemore. Et on va vous parler, retrouvez-nous juste après pour une section témoignages. Vous allez entendre des super témoignages. Vraiment, je vous conseille de pas nous quitter.
Straight. She didn't understand, but she had so much to say. She sat me on the couch, looked me straight in my face, and said, "You'll burn in hell or probably die of AIDS." It's funny now, but at 13, it was pain to be almost sure of who you are and have it ripped away. And I'm sorry if it's too real for some of you to fathom, but hate for who you love is not exactly what you'd imagine. And I guess it was disastrous, 'cause everything that happened afterwards was just madness. Locked away for 2 years to keep me on the inside, because she'd rather see a part of me die than me thrive. And it's tougher when it's something you can't deny, and ignorance teaches us it's something that you decide. You're driven by your choices, an optical illusion. Here's to understanding that it's not always confusion.
And I can't change,
in my school, and I've seen kids hide behind walls and footballs and things
words like pride. I've seen innocent children suffer beneath bruises, suffer beneath every single hand that chooses. Ignorance, fuck your religion, fuck constitutions, fuck superstitions. There are no lakes of fire for here on earth, and the only thing to do is put love first. And so I stand for the boy who died by his hand to the sound of his father screaming, woman loves man. This is Adam and Eve, not Adam and Steve. And I stand for the girl with the cuts up her sleeve and a heart in her hand and that chip on her shoulder. And I stand for it all until ignorance is over. This is for you, for knowing who you are, for never letting your magic outside of your heart. Be you, be brave, and understand that things do change. I accept you for you when I don't understand, and I love you for you, because this is who I am. I accepted you for you when I didn't understand. Now love me for me, this is who I am.
J'enrage le courage en intraveineuse.
Bonjour, vous êtes toujours sur J'enrage. Nous sommes le dimanche 14 février, nous ne fêtons pas la Saint-Valentin. Et nous allons parler du coming out avec des témoignages que j'ai pu enregistrer lors de mes séjours à Paris. Voilà, donc c'était suite à une discussion non mixité. On a commencé parler là-dessus et mon micro traînait. Du coup, voilà, c'est juste pour préciser... les deux personnes qui parlent s'identifient plutôt comme des lesbiennes et sont plutôt autour de la cinquantaine, voilà.
Ton coming out ?
Bah, je sais pas si c'était un coming out, simplement j'étais amoureuse d'une fille et une fille était amoureuse de moi, tu vois. En fait, en ce temps-là, conseil de discipline, évidemment, plainte en quelque sorte de la mère de cette copine, et j'ai eu la chance d'être soutenue par ma mère adoptive parce que c'était manifestement un truc raciste aussi. Il y avait la lesbophobie évidente, enfin, ça ne se faisait pas, c'était impensable, et il y avait aussi le racisme, c'était net. Mais en tout cas, je me suis fait virer, quoi. Pour le premier prétexte
à Paris,
à Paris, oui, c'est raciste.
Joli.
Ouais, c'est trop la classe. Ouais, c'est trop la classe. Tu racontes cette
histoire. À l'époque, c'était mixte ou...
Ah non, non.
Non, c'était non mixte. Ouais.
D'accord. Justement.
Comment veux-tu?
Attends. Et alors, ils ont dit quoi au conseil de discipline?
Ah, ils ont pris un prétexte. Parce qu'il y avait... J'ai vague souvenir, c'est quand même assez vieux. Et ça devait être... Il devait y avoir un jour de grève ou de quelque chose comme ça où il n'y avait pas cours l'après-midi, et j'étais sortie du lycée pour aller, je crois que j'étais allée retrouver mon père adoptif, tu vois, enfin, tu vois, un truc tout à fait banal, mais j'étais sortie sans être réglée.
Ah oui. Voilà. Mais comment est-on grillé avec la meuf?
Comment?
Bah, bonne question, comment est-on grillé avec la nana?
Ah, parce que la mère...
la mère a porté plainte.
Oui, alors, elle a mis sa fille chez des cousins à elle en banlieue. Évidemment, ce n'est pas une banlieue très loin d'elle. Donc, et les cousins étaient assez sympas pour en recevoir. C'était délicieux. C'était génial. C'est sympa. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à ça.
Ah, voilà, un beau salaire.
Cool. C'était bien ça.
Voilà le premier témoignage. Donc, une petite anecdote comme ça de comment ça pouvait se passer il y a au moins une petite trentaine d'années hein, maintenant. Du coup, voilà. Et puis, on va pouvoir enchaîner si à moins que vous ayez des commentaires.
Bah, on pourra peut-être en reparler après, revenir sur les deux reportages en même temps. Mais en parlant d'anecdotes, il y a des choses qui n'ont pas tant changé que ça actuellement parlant. Petite anecdote de lycée personnelle. On reviendra peut-être dessus après, on fera les deux reportages en même temps, comme vous voulez.
Oui, bah oui. Allons-y maintenant.
Alors on écoute
le deuxième.
Le deuxième.
Ouais.
D'accord.
Mais sinon, moi, enfin, c'est-à-dire, oui, voilà, le coming out. Moi, j'ai su tout de suite que... Enfin, pas tout de suite, à part cette fois-là, là, 3 ans, j'ai pas voulu me marier. Voilà, vers 7-8 ans, j'ai su que j'aimais les filles. Voilà, que les amis, c'était autre chose. Voilà, j'ai ressenti autre chose, moi-même, quand... En face de ma meilleure amie, entre guillemets, j'ai senti autre chose. Voilà. Et sinon, j'ai mis un peu de temps. Sinon, voilà, j'étais dans un lycée de filles, donc voilà, je vous passe les détails.
Non, vas-y.
Non, non, mais il n'y en avait pas tant que ça. Hein, mais bon, voilà, il y a eu quelques approches.
Comme dans Thérèse et Isabelle. Je viens de le finir.
Moi, mais alors, il y avait des... Moi, je ressentais des choses, hein, c'était terrible. Hein, je ressentais des choses, ben justement, d'être en communion avec les autres, qu'ils l'étaient ou pas. Hein, et puis, par contre, la vraie sortie du placard, c'est-à-dire assumer mon homosexualité, voilà, c'était en lisant Carole. Hein, j'étais dans un magasin. Une librairie, voilà, une grande librairie, et puis je fouillais, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là, samedi, à midi, là, à fouiller dans les bouquins, et je trouve la première version, Les eaux dérobées, de Patricia Smith, qui a changé de nom pour l'occasion, qui s'appelait Morgane, Claire Morgane, voilà. Et alors, et là... Là, c'était la grande année, hein, c'est la grande année. Je l'ai lu en une après-midi, et puis après, quand j'ai vu un film, le film qui avait été primé à Créteil, là, comment il s'appelait ? Anne Tristère. Alors Anne Tristère, elle est sur les toilettes, et puis elle dit, quand on réalise pas ses rêves, on crève. Alors, voilà. Ça m'a aidé.
Les réactions.
Voilà.
On est resté sur le quand on réalise pas ses rêves, on crève. Ça fait méditer.
C'est clair. C'est très juste.
Ouais. Bah, peut-être du coup, rapidement, avant que. Pour revenir sur l'anecdote du fait qu'il y a des choses qui n'ont pas tant changé que ça. Alors, je ne suis pas passée en conseil de discipline hein, quand j'étais au lycée. mais j'ai quand même été convoquée par la principale adjointe du lycée avec ma copine de l'époque. Parce qu'on avait eu l'audace de, en sortie scolaire, alors je vous la fais rapide, mais voilà, en sortie scolaire et en surtout en comment ça s'appelle, en inauguration, là où je perds mes mots, bref, du 8 mai 45, en fait, on était, il y avait une célébration, enfin, c'est quoi le mot ?
Commémoration.
Merci. Voilà, commémoration du 8 mai 45, comme tous les ans, à Lille. Et. On avait dû écrire, il y avait plusieurs classes, et on avait dû écrire un petit discours. Sur la guerre, la fin de la guerre, tout ça. Et je l'avais écrite avec ma mère, et puis on avait parlé de plein de violences discriminatoires, comme il peut en exister. On avait cité plein de choses, dont les violences envers les personnes homosexuelles. Pas que d'ailleurs, hein, on avait dit aussi bisexuelles et transsexuelles, je pense. Les violences racistes, voilà, et c'était plein de choses différentes, pas que en rapport avec la sexualité. Et puis il se trouve que dans le public il y avait ma copine de l'époque, et que en revenant à ma place je lui ai pris la main, et que les militaires autour nous ont vus et n'ont pas du tout été contents parce qu'ils pensaient que dans le discours je parlais de moi. Et du coup du coup ils ont fait remonter l'info au lycée, parce qu'on était sous la direction et sous la responsabilité du lycée à ce moment-là. Et puis un jour, en cours d'histoire, ma copine et moi, on a été sortis de classe parce qu'on a été convoqués pendant une heure dans le bureau de la principale adjointe qui nous demandait des excuses que nous ne lui avons pas fournies. parce qu'on comprenait pas bien et que je lui ai refait enfin que voilà rapidement on lui a quand même refait un petit topo sur le discours au complet et que si les militaires étaient restés sur le fait que on défendait que les homosexuels c'était bien dommage parce que c'était pas le cas et voilà donc c'est resté sans suite hein, mais c'était pas évident parce qu'en plus j'avais pas fait mon coming out auprès de mes parents donc je me suis sentie un petit peu seule. Ouais, parce que du coup j'en ai pas parlé à la maison et voilà, donc c'était pas évident à gérer. J'ai eu un peu peur pendant une semaine que ça se reproduise, qu'on soit reconvoqué, mais non, ça a pas de, y a pas eu de suite. Voilà, c'est une belle histoire sur les joies du lycée encore.
Ah ouais, dis donc, c'est dingue, ça fait un peu peur. Enfin, ça me fait un peu bader quoi. Mais ce que j'entends de l'administration militaire en ce moment, ça ne m'étonne pas trop.
Ça ne m'a pas étonnée non plus. Mais, puis quand j'en ai parlé à mes parents des années plus tard, ils étaient déjà un peu déçus. Ou en tout cas, ils l'ont pris un peu pour eux que de ne pas avoir pu me soutenir à ce moment-là. Mais je leur ai dit que je n'avais pas envie de faire mon coming out pour ça. Et que ça les a pas étonnés non plus. Le militaire chez moi, c'est pas trop nos copains, mais voilà, c'est un peu triste hein, quand même.
C'est clair. Un coming out forcé. D'ailleurs, coming out forcé, c'est ce qu'on appelle un outing, je crois.
Vas-y.
Du coup, juste pour préciser, quand on va parler d'outing, on va parler de ça au sens de parler de la sexualité d'une personne LGBTQIF sans son accord, et ce qui est déjà une forme de violence en soi hein, voilà. Et je dis ça parce que dans d'autres sujets, outer quelqu'un ou quelqu'une, ça peut vouloir dire que tu parles d'une personne comme celle ou celui qui t'a fait subir des violences physiques ou psychologiques. Et voilà, je voulais juste préciser cette petite définition. Voilà, merci, bisous.
Merci Marc.
Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai. Oui, vas-y.
Julie. Non, vas-y.
Non, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que quand je pense au mot outing par exemple, je l'associe en général à la violence liée au
fait d'outer quelqu'un,
à l'identité sexuelle, l'identité de genre. Et pas enfin bref, merci Marthe.
Ne mette rien. Bon, aucun problème.
Que d'amour à Jean-Rage, oh là là.
Donc on a eu plein de témoignages qui en fait se recoupent alors qu'on a des âges différents, que ça s'est passé à des époques différentes. Je ne sais pas ce qu'on peut conclure là-dessus, à part que peut-être en fait qu'on ne peut pas trop avoir une notion de l'histoire forcément progressiste où il y aurait des avancées et les personnes seraient de plus en plus ouvertes et de moins en moins homophobes, de moins en moins transphobes ou sexistes ou racistes. Bref, c'est juste une petite question, ça n'engage pas forcément à la discussion.
Ben, du coup, oui, moi, ça me fait quand même... Enfin, du coup, ce que ça m'inspire, tout ça, c'est qu'on est encore dans une forme de... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de nos... Enfin, par exemple, moi, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage que je trouve qui ont beaucoup évolué et qui, enfin, à qui j'ai pu, de toute manière, à tout moment de ma vie, parler de mes attirances sans que ça les choque le moins du monde. Par ailleurs, j'ai l'impression qu'on est encore dans une société où il y a une rigidité très, très, très forte sur les questions d'attirance et d'identité autre que... Enfin, ouais, d'hors norme un peu, quoi. Et... ouais, c'est pas... Je pense qu'on se rend pas forcément compte quand on est hétéro et qu'on est cis et de l'espèce de omnipotence, c'est pas le bon mot, mais de présence... total de l'hétérosexualité dans notre vie, dans ce qu'on voit à la télé, dans ce qu'on voit dans les magazines, dans ce qu'on lit, dans les conversations. Et que c'est peut-être justement là le questionnement très critique sur le coming out, c'est de justement, moi j'ai pas l'impression que ça change ma manière d'être, mais je sais que ça me met dans une catégorie qui, on va dire, est plus susceptible de se taper de la violence au quotidien, parce que s'il y a cette rigidité qu'elle a et dans laquelle du coup ma manière d'être et de me voir et de me comporter va venir taper droit dans le mur, quoi, en fait, dans cette espèce de mur de rigidité, de normes.
Vas-y, Suze.
Ouais, en fait, non, ce que je suis complètement, enfin, ça résonne vachement en moi ce que tu dis, parce que en fait, quand on fait son coming out, ne serait-ce que même l'expression faire son coming out, ça veut dire que déjà t'es minoritaire, quoi, t'es là dans un espace en tant que minoritaire, et donc les structures autour de toi, les impensés, les sous-entendus, etc., font en sorte que ton identité, tes désirs, ton corps, ton identification est silenciée, en fait. Enfin, c'est tout ce que j'entends. En fait, je reformule juste ce que tu viens de dire, mais parce que ça résonne pas mal en moi.
Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a des personnes avec lesquelles on peut en parler. Enfin, je sais pas du tout, je veux pas faire une comparaison un peu arbitraire comme ça. C'est vraiment une impression qui a possibilité de discuter avec des personnes qui sont pas forcément favorables. Enfin, c'est des personnes qui ont pas forcément connaissance de ça ou qui rangent ça dans une catégorie minoritaire et éventuellement problématique, etc. Jusqu'à ce que dans leur entourage proche, y a quelqu'un qui fasse son coming out et du coup il y a une possibilité de retour sur soi, de remise en question un peu là-dessus. J'ai l'impression que c'est peut-être plus facile aujourd'hui d'amener les gens à se remettre en question sur leur position de domination un peu comme ça, ou de violence envers les personnes LGBTQIF qu'avant. Enfin, c'est vraiment c'est un peu une question, ou si c'est vraiment une impression, mais enfin, pour parler clairement et encore d'une anecdote personnelle, je sais que ma grand-mère elle a alors, enfin, ça peut être discuté, j'ai trouvé ça mignon et ça pose aussi plein de petits soucis et plein de questions, mais elle avait pas de problème avec les personnes LGBT QIF tant que c'était pas dans son entourage proche, en gros. Jusqu'à ce que une de ses petites filles, voilà, s'oute en tant que lesbienne. Et je pense qu'elle a beaucoup, ça l'a beaucoup fait réfléchir. Et en fait, elle est, enfin, finalement, ça lui pose pas du tout de soucis. Il y a plus de mais derrière. Et elle a fait un vrai travail, enfin, avec le mariage pour tous, d'ailleurs, avec tout ce que ça comporte de violence qu'il y a eu autour, etc. Mais je pense que c'était, enfin, ça a été important pour moi, ce travail-là qu'elle a fait, et que elle a eu possibilité de le faire, qu'elle n'aurait pas forcément eu quand elle était plus jeune, quoi. Voilà.
Ouais. Juste pour préciser mon propos de tout à l'heure, quand je dis dans cette société qu'on est, il y a une invisibilisation, il faut, j'ai quand même envie de préciser qu'il y a aussi une invisibilisation des personnes racisées. Et que, voilà, moi je suis blanche, et du coup, c'est pas forcément... Mais je me rends bien compte que dans la société, dans ce qu'on voit, toujours pareil, dans les médias, autour de nous, le fait d'être non-blanche, c'est exceptionnel, et c'est absolument pas représenté, il n'y a rien qui est fait. En fait, dans cette société, même, ne serait-ce que les montures de lunettes, à des produits adaptés, enfin, ouais, des produits... de toutes sortes, juste adapté au fait qu'on a des différences. Il n'y a vraiment rien qui est proposé, quoi, en France. Enfin, ça commence tranquillement à arriver, mais c'est encore très minoritaire.
Merci, Julia. C'était hyper important de le préciser. Heureusement que tu l'as fait. On va tout de suite écouter une chanson de Mansfieldia, mon amoureuse. Et puis, juste après, Julia va vous parler de la Vine BD de Gauthier. Retrouvez-nous dans quelques minutes.
qu'elle était belle, ma maman Paline, vue sur une prairie solitaire. Ma belle étante, sculpture androgyne, tu n'insistas pas pour me plaire. Je ne suis pas de celles qui bondissent sur le premier bijou souriant. Du temps il me faut pour que j'agisse, cœur de mousse modère ses battements. De moi mon amoureuse, telle une mer pressée. Sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner. De moi mon amoureuse, telle une mer pressée. Où cours-tu ma fugitive, mon indécision t'a glacée. Mais elle te réclame mon âme vive, tu m'as trop vite abandonnée. Sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner. De moi mon amoureuse, telle une mer pressée. Sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner. De moi mon amoureuse, telle une mer pressée. J'ai le sang bon de l'ingrate, une absurde rancœur à vivre, l'odeur d'une ivresse écarlate. Elle emporte avec elle ses pensées secrètes, son drapé, ses dentelles, ses cendres de cigarette.
Voici donc en ce beau dimanche avec sur RCV 99.fm et avec Jean Rage. Donc il y a Mathilde, Anaïs, Anaël, Marthe et Suze ainsi que moi-même sur le plateau et je vais vous parler d'une petite BD qui m'a pas mal fait réfléchir parce que en fait, voilà, c'est la BD, c'est Anne-Charlotte Gauthier qui l'a écrit et dessinée. Et ça s'appelle L'enterrement de mes ex. C'est une BD qu'une amie m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps, il y a, on va dire, 6-7 mois, et qui m'a beaucoup marquée, qui ne correspond pas forcément du tout à mon vécu à moi en tant qu'adolescente. Et donc, ça, voilà, comme vous l'avez deviné, ça parle de l'adolescence. Et donc, c'est... Anne-Charlotte Gauthier, en fait, prend comme fil conducteur toutes ses expériences d'attirance lesbienne depuis l'école primaire. Et donc, il y a des expériences assez mignonnes et d'autres qui sont un peu plus cruelles et un peu plus douloureuses. Et là encore, qui pointent du doigt pas mal de choses, on va dire... finalement, de la rigidité, encore une fois, de ce qu'on peut vivre au collège, ce qu'on peut vivre au lycée, dans une société hétéronormée où les enfants, on les fait grandir dans ce contexte-là. Donc, ils sont forcément dans un rejet de la différence autre qu'hétérosexuelle. Alors, juste pour finir, avant de préciser deux, trois trucs, donc l'édition, c'est 6 pieds sous terre. Et la collection, c'est Plantigrade. Voilà. Et en fait, Anne-Charlotte Gauthier a écrit aussi Peau de lapin, a écrit en 2013, Justine. 16 000 avec Émilie Plateau, qui est une autre autrice de bande dessinée que je vous conseille vivement, que j'ai découvert aussi et qui a un trait extrêmement différent de ce qu'on peut apercevoir, avec des personnages minuscules dans des immensités de paysages, tout ça au très très fin. Et Enfin, c'est très, j'aime beaucoup Mini Plateau aussi, je vous en parlerai une autre fois. Et donc une auto-édition 2013 qui s'appelle 24 jours. Donc toujours Anne-Charles Gauthier. Son livre, il est déjà le choix graphique, il est intéressant parce que c'est du bleu, du noir et du blanc. Donc ça crée, je trouve que ça crée quelque chose d'assez intime. Je sais pas comment dire pourquoi, mais je trouve que la manière dont elle dessine les choses, tu as vraiment une manière de te mettre, tu t'arrives à te mettre à la place de la personne. Voilà. Voilà, moi j'avais envie de vous parler de cette BD. Je sais pas si d'autres personnes l'ont lu, ici présente.
Non.
Des réactions ?
Non, ça donne envie de la lire.
Est-ce qu'il y a un blog, un site sur lequel on peut s'informer ?
Bah oui, d'ailleurs, vous tapez Anne-Charlotte Gauthier, vous allez tomber directement sur son site internet où il y a toutes ses publications. Il y a un peu de BD aussi, je pense qu'elle fait un peu de BD sur internet. Elle est aussi graphiste. Voilà, elle a fait les Arts Déco de Strasbourg. D'accord. Et c'est plein de travail assez différent que vous trouvez sur son site. Voilà.
Super.
Merci.
Génial. Merci. Est-ce qu'on reste là-dessus ? Est-ce que... Ok. Bon, bah alors, bah super, bah ça, alors, ça donne vraiment envie de la lire, ouais. On va directement passer encore un morceau de musique et puis on se retrouve après pour je vais vous parler de L'Opoponax de Monique Wittig. C'est son premier bouquin, enfin voilà, vous en saurez plus tout à l'heure. Et puis là je vous passe un clip super sex positive et queer et tout ça qui s'appelle Credit Card Babies. I'm gonna fuck hard. I'm gonna fuck hard. I'm gonna fuck I'm gonna fuck hard. 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 I'm gonna fuck We'll be right back.
Alors nous revoilà sur les ondes d'RCV dans J'enrage. Et du coup, pour terminer sur la chronique BD, j'avais envie de partager un petit peu quelques moments un peu croustillants de texte qu'elle a écrit, du scénario de la BD. Donc le premier moment un peu croustillant, ça commence par ça. Ça commence, la BD commence, voilà, école primaire, 87-91. Et elle regarde Jeanne et Serge à la télé. Et là, elle commence à fantasmer de prendre une douche avec Jeanne. Et elle fantasme tellement fort que, genre, dans la demi-heure d'après, elle demande à sa mère si elle peut faire du volley-ball. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, il y a une belle image d'elle en train, avec beaucoup de mousse, dans une grande salle de bain avec Jeanne. Toutes les deux nues, voilà. Qui l'a fait beaucoup rêver. Et voilà. Ensuite, il y a une deuxième extrait un peu plus tard au collège où elle rencontre sa meilleure amie Sophie. Et du coup, elle demande ça fait toujours cet effet, une meilleure amie? On se mettait sur le dos et on se posait des questions de fille de 13 ans. Tu crois qu'on aura une interro en maths lundi? Je sais pas. On se racontait des histoires de collégiennes, on se sentait très différente des autres. Si la prof tombait dans les escaliers, trop génial! En fait, non, je me sentais très différente des autres. Quand elle s'endormait, je me mettais sur le côté, recroquevillée, et un peu plus près d'elle, et je fixais son visage. C'était doux, même si je restais seule avec des points d'interrogation et un sentiment étrange et envahissant. Et puis un jour, j'ai un peu plus fixé son visage, je me suis approchée un peu plus d'elle, et recroquevillée un peu plus contre elle. Et après, les images sont un rapprochement qui se finit par un gros bisou sur la bouche. Et la seule commentaire, c'était vraiment ma meilleure amie. Et le dernier petit extrait pour illustrer la période de lycée. La première page. Quand je suis arrivée en seconde, la puberté avait fait son affaire. J'avais de gros seins, un gros cul, je n'avais pas grandi, mais surtout, j'étais vierge. Voilà, ça c'est la première page, et puis après elle se retrouve dans une classe où elle connaît personne, et il y a une élève qui arrive en retard avec un casque de scooter, et elle tombe amoureuse direct.
Ouais. C'est vraiment trop mignon.
C'est vraiment trop mignon.
Bon, bah moi je vais passer à un registre un peu plus, peut-être, je sais pas si c'est aussi très mignon en fait d'une certaine manière. Je vais vous parler du coup du premier bouquin de Monique Wittig qui s'appelle L'Opoponax, qui a été publié en 1964. Et L'Opoponax, c'est un titre qu'on pourrait dire opaque, intraduisible, qui est techniquement un apax, c'est-à-dire un mot qui n'apparaît qu'une fois dans la littérature. C'est un mot, seulement un mot, sur lequel on est invité à rêver. L'Opoponax, c'est un livre coloré par l'enfance. Le langage, les situations et les perceptions sont ceux d'un enfant dont les jeux sont des aventures vertigineuses, les expérimentations des défis renouvelés et les amours un monde de couleurs, d'impressions et de sensations nouvelles. Avec ma langue d'enfant, moi j'entends hippopotame dans Opoponax. J'entends le bégaiement devant le mot l'opopopopo. On ne sait pas vraiment ce qu'est l'Opoponax en lisant l'Opoponax. On l'aurait presque oublié, ce titre étrange, jusqu'à ce qu'à la page 179, il apparaisse en toutes lettres dans le cahier de Catherine Legrand, la protagoniste, même si ce terme n'a pas vraiment de sens dans un livre aussi décentré qu'est l'Opoponax. Donc je vous lis cet extrait. Elle écrit donc en lettres capitales, en haut et au milieu de la deuxième page, Opoponax, et deux points suivis de « peut s'étirer ». On ne peut pas le décrire parce qu'il n'a jamais la même forme. Règne, ni animal, ni végétal, ni minéral, autrement dit indéterminé. Humeur instable, il n'est pas recommandé de fréquenter l'Opoponax. Donc, protéiforme indéterminée, instable, l'Opoponax, tel que je le comprends, c'est une sorte de machine à pulvériser les systèmes de pensée et de langue binaire. L'Opoponax intervient dans le langage avec la langue impersonnelle du « on ». Jamais, dans l'Opoponax, un personne ne dit « je » une seule fois dans le récit. Les événements sont racontés comme depuis l'extérieur. Il n'y a pas de sujet qui pense, il n'y a pas de moi introspectif. Les sensations, lorsqu'elles émergent, sont des nuances qui balaient les corps, dégagent la nuque longue blonde de Valérie Borges, découvrent au milieu d'un cours de littérature les genoux de Valérie Borges ou guettent à l'heure de la messe les moindres gestes de Valérie Borges. Valérie Borges, c'est d'abord un nom parmi d'autres fondu dans la masse des écolières que fréquente Catherine Legrand dans son école non mixte.
peu à peu une apparition qui me hante, moi lectrice, qui me met à chercher avec Catherine Legrand d'autres apparitions, d'autres moments de grâce. C'est donc aussi de l'extérieur, dans une langue descriptive et impersonnelle, universelle, que Monique Wittig raconte l'éveil à l'amour de Catherine Legrand. Dans le monde de l'Opoponax, le coming out a lieu à répétition, au rythme des respirations de Catherine Legrand. À moins d'ailleurs qu'il n'ait pas lieu du tout, puisqu'il n'y a rien à révéler, aucune intériorité à faire sortir, aucun placard à ouvrir, rien à cacher, ni à divulguer, seulement un monde objectif à la mesure de l'univers sensoriel d'une enfant, puis d'une adolescente. On touche ici à la complexité déroutante de l'Opoponax, et plus généralement de l'œuvre littéraire et politique de Wittig. Car Monique Wittig, ce sont des récits poétiques, une écriture expérimentale, l'auteur d'un premier livre sur l'enfance salué par Marguerite Duras, qui en signe la postface aux éditions de Minuit, mais c'est aussi, voire surtout pour beaucoup d'entre nous, militantes féministes et queer, et militants, une écrivaine et théoricienne féministe et lesbienne radicale, auteur de La pensée straight, dont la phrase « Les lesbiennes ne sont pas des femmes », souvent citée hors contexte, a été mésusée pour la décrier et neutraliser sa portée subversive. En contexte, la citation du coup ultra connue de Wittig, ça donne « Il serait impropre de dire que les lesbiennes vivent, s'associent, font l'amour avec des femmes, car la femme n'a de sens que dans les systèmes de pensée économique hétérosexuels. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. » Je n'ai pas le temps ici de déplier toute la mature théorique impliquée dans cette formule coup de poing, mais je vais retenir ça seulement. La femme, que Wittig écrit en tout attaché, a prononcé d'un trait, la femme, n'existe qu'entre les bornes d'un régime hétérosexuel, au sein duquel la classe des femmes est sexuellement, matériellement appropriée par la classe des hommes. En existant par et pour les femmes, les lesbiennes sapent le logiciel straight ou hétéro et ses catégories de pensée de genre binaire. Elle rejette donc aussi bien, Wittig, la notion d'écriture féminine que celle de littérature gay ou lesbienne. En fait, le coup de force révolutionnaire des littératures écrites par des écrivains minoritaires, selon elle, c'est de réussir à rendre universel un point de vue minoritaire. Et c'est une prouesse qu'elle reconnaît par exemple dans « La recherche du temps perdu » de Proust, une œuvre machine de guerre où l'homosexualité est le point de vue oblique, l'axe de catégorisation à partir duquel universalisé. Elle appelle ça un cheval de Troie, c'est sa métaphore. Et selon moi, ça c'est ma lecture on va dire, le cheval de Troie de Wittig, c'est l'Opoponax. Un livre où le lesbianisme ne peut être réduit à un thème ou à une identité. Ce n'est pas un livre sur l'homosexualité, comme si l'homosexualité pouvait constituer un bloc thématique isolé du reste du monde. Le point de vue lesbien y est l'horizon d'un langage nouveau, étranger aux catégorisations de genre grammaticales, puisque le « on » est hors du genre féminin masculin et créateur d'un nouveau rapport au monde. Donc voilà, là c'est un peu la présentation de ce livre, l'Opoponax. Et puis, étant donné qu'on avait une émission sur le coming out, j'ai essayé de voir en quoi il y avait un lien justement avec notre thème du jour. Et je crois que Anaïs, tu avais peut-être un petit commentaire pour revenir à la fois, nous reconnecter au thème. Et puis ensuite, on va terminer avec un extrait de l'Opoponax justement.
D'accord. Alors moi, je pense que le coming out, en fait, en réalité, nous, on le prend vraiment au sérieux. Mais je pense que, par exemple, quand on en parle à notre entourage, j'ai pas l'impression que eux, ils le prennent au sérieux. Ils vont vraiment. Moi, par exemple, quand je l'ai fait, on a plus considéré ça comme une erreur de jeunesse et on a eu pitié de moi. Et en réalité, moi, j'ai fait mon coming out parce que je pensais qu'il fallait faire mon coming out. Mais moi-même, je le prenais pas au sérieux. Parce que pour moi, j'avais pas. Enfin, je le faisais parce que tout le monde le faisait autour de moi. Mais en réalité, moi, j'avais pas envie de le faire parce que pour moi, c'était naturel et je trouvais pas que c'était une tare pour moi d'aimer les femmes, en fait. Donc, pour moi, c'était pas nécessaire d'informer ma famille sur ma sexualité. Mmh. Donc, du coup, on en parle beaucoup. Là, quand même, il y a énormément d'artistes qui vont en parler, d'auteurs, tout ça. Mais, enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose d'ultra neutre, en fait. Enfin, on en débat énormément, alors que pour moi, je trouvais pas que ça nécessitait autant de débat. C'est assez spécial comme point de vue, j'ai l'impression, mais pourtant c'est intéressant tout ce qu'on dit, bien sûr. Mais
non, mais c'est hyper intéressant parce que ça montre qu'en gros il y a un gouffre entre théorie et ensuite émotion qu'on verbalise pas forcément et puis qui fait partie de nous en fait. Enfin, je sais pas si.
Non, mais enfin, je dis pas que c'est pas intéressant tout ce que tu viens de dire, tout ça.
Non, non, c'est.
Mais non, mais enfin.
Je sais bien, t'inquiète pas, c'était pas du tout. Génial. Trop bien, si j'ai réussi.
Pour donner encore plus envie de le lire, un petit extrait avant de clore l'émission.
lu par Marthe.
Désolée pour les bruits de micro. Je viens de tamponner le mien. Je suis rentrée en contact violent avec mon micro, excusez-moi.
Ok, du coup, un petit extrait de l'Opoponax de Monique Wittig. On dit l'heure où l'on n'a pas pu sortir avec le soleil vertical, le ciel indigo, le ciel outre-mer, le ciel blanc, le vent des après-midi dans les arbres. L'image. Les collines ou les bancs de nuages ou les pluies. Les déplacements vers les rivières. Les marches vers les forêts, les jeux. On dit que Valérie Borges a les mains, les jambes, la figure d'un brun luisant. Que Valérie Borges porte un chemisier blanc sous la blouse. Que Valérie Borges n'a pas encore retiré le pullover de laine qu'on garde tout l'hiver. On dit qu'on est en avril, que les fleurs sont tendres aux arbres, ou bien que les fleurs les recouvrent. On dit qu'on est en octobre, qu'on repousse du pied les fleurs qui tombent. On dit qu'on marche en tenant Véronique Legrand par la main. On dit qu'on est l'Opoponax. On dit qu'on descend la colline en courant. On dit qu'on cherche des musiques pour les poèmes qu'on connaît. On dit qu'on attend des lettres de Valérie Borges. On dit qu'on a des projets de voyage. Au Mexique, pour les temples à gradins, au Colorado, pour les vallées oranges, en Chine, pour les déserts de poussière jaune, en Grèce, pour les hommes à fustanelle ou à tutu, en Perse, pour voir des filles danser avec des pantalons serrés aux chevilles, au pôle à cause du jour et de la nuit. Catherine Legrand et Véronique Legrand entrent par le grand portail qui est ouvert. On entend le bruit des élèves dans la cour. On avance. Les internes sont arrivés. Véronique Legrand, Catherine Legrand restent un moment côte à côte et regardent.
Super lecture, Marthe.
Ah, ça donne envie, oui. Merci.
Ben, on va vous quitter, je pense, sur cette très belle lecture. Et on va, on se retrouve dans un mois, dans un mois tout pile, un dimanche, 14 à 15 heures. Voilà, un au revoir de toute l'équipe de Genrage.
Salut.
Et puis on vous quitte avec Daniel Messia de La Main Gauche, qui est justement une musique qui apparaît dans le film Anne Trester, qui a été citée dans un des témoignages qu'on a écoutés. Je t'ai